Merci beaucoup pour votre intervention sur l'état des enfants français et des jeunes adolescents. Je pense que l'essentiel de ce que vous avez décrit s'applique à la France assez bien, même si le phénomène est peut-être un peu moins étendu et si un plus grand nombre d'enfants échappent aux cinq éléments que vous avez énoncés. Ce que je pourrais ajouter simplement, du point de vue qui est le mien, c'est que si l'école ne les aide pas, ces enfants trouvent à l'extérieur de l'école des systèmes dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer, se retrouver, qui sont des systèmes de groupes fusionnels, qui sont des systèmes de bandes, qui sont des systèmes dans lesquels ils vont s'assujettir à un leader qui parfois exerce sur eux une tyrannie affective extrêmement forte et qui échange en quelque sorte l'appartenance au groupe et la protection du groupe contre l'assujettissement total au chef. Et ce que nous observons, c'est que ces enfants qui n'acceptent plus l'autorité des adultes dans l'école, qui n'acceptent plus l'autorité des parents ou de ceux qui représentent la loi, acceptent en revanche et d'une manière tout à fait sereine et même plus forte encore, l'autorité d'un certain nombre de leaders charismatiques, de chefs qui exercent véritablement une tyrannie et qui fonctionnent en leur vendant la sortie de la solitude et l'écoute et la certitude d'être au chaud dans un monde où ils seront bien, contre le fait qu'ils se donnent en quelque sorte complètement au groupe. Alors ils s'y donnent à travers l'adoption de marquages vestimentaires, ils s'y donnent à travers l'idolâtrie d'un certain nombre de musiques, d'un certain nombre de leaders ou d'animateurs de la télévision, ils s'y donnent aussi en se prêtant à des comportements qui sont des comportements tribaux, claniques. C'est-à-dire que nous avons chez nous en France ces mêmes jeunes que vous avez décrits qui échappent à l'école, qui échappent au tissu social et qui vont se retrouver dans des clans, qui vont se retrouver dans des tribus, qui vont se retrouver avec un fonctionnement extrêmement régressif, magique, dans lequel c'est pas la démocratie qui va l'emporter, mais alors là, la tyrannie complète avec les fonctions de mimétisme absolu, mimétisme à l'égard du chef, mimétisme à l'égard des modèles dominants et en particulier des modèles dominants utilisés par le néolibéralisme et la publicité. Donc on a ce paradoxe extravagant, c'est que ces enfants qui sont entre guillemets des exclus, font marcher massivement la publicité et le commerce que le libéralisme encourage, en étant des consommateurs extraordinaires de cette idéologie de la bande, du clan, du fait que l'on n'a pas le droit d'appartenir à une autre bande ou à un autre clan, qu'on est membre d'une tribu dans laquelle on est assigné à résidence, on n'a pas le droit d'avoir des relations d'amitié ou des relations personnelles à l'extérieur de la tribu, etc. Et ce que nous appelons la crise de l'autorité en France est moins une crise de l'autorité en soi qu'un changement d'autorité, c'est-à-dire que les jeunes ne se plient plus aux autorités qui sont considérées comme légitimes par les adultes, mais ils se plient à d'autres autorités qui leur donnent une espèce de bien-être dans le présent et qui leur donnent une forme d'appartenance fusionnelle qui leur permet d'exprimer leurs pulsions dans des conditions qui sont effectivement dangereuses pour leur développement personnel. Alors, à partir de là, je partage bien évidemment les cinq éléments que vous avez indiqués, qui sont des éléments que nous retrouvons d'une manière massive et déterminante dans la jeunesse française. Alors, maintenant, sur le deuxième point, j'ai une réserve par rapport à vous ou une différence d'appréciation. Je crois que la grande difficulté de beaucoup de ces jeunes, c'est qu'ils ont le désir de savoir, mais qu'ils n'ont pas nécessairement le désir d'apprendre. Ils veulent tout savoir sans prendre le temps d'apprendre. Quand nous faisions des photographies à l'époque où moi-même j'étais jeune, Nous achetions des appareils photographiques dans lesquels il n'y avait aucun réglage automatique et il fallait calculer le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme pour faire une photographie nette. Aujourd'hui, le progrès technologique donne le sentiment à ces jeunes qu'ils peuvent avoir accès à tout sans prendre le temps d'apprendre, de réfléchir et de comprendre. Et un des rôles de l'école, qui est un des rôles les plus difficiles, je crois, c'est de dire, eh bien, pour savoir, il faut apprendre, il faut réfléchir, il faut soulever le capot de la voiture pour voir comment ça marche, il faut comprendre des mécanismes qui ne se donnent pas immédiatement à la visibilité, et il faut sursoir à la satisfaction immédiate de savoir tout de suite. Et là, nous tombons sur un point que vous avez vous-même bien évidemment pointé, qui est le point nodal de ces jeunes, c'est qu'ils sont dans le passage à l'acte et dans l'immédiateté permanente. Tout de suite, ils passent à l'acte, ils ne réfléchissent pas. Entre le désir et l'acte, il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas un moment dans lequel ils peuvent progressivement réfléchir et s'interroger sur la légitimité de leur acte. Alors, par rapport à cela, bien évidemment, que peut proposer l'école et que peut-elle proposer en termes de formation, pas seulement à, bien évidemment, la citoyenneté, mais aussi l'humanité. D'abord, je crois qu'il y a une démarche pédagogique à promouvoir dans l'école qui est celle d'impliquer ces jeunes dans ce que nous appelons des projets qui leur tiennent à cœur, de les faire découvrir les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans la réalisation de ces projets et à l'occasion de ces obstacles, de les mettre en relation avec des ressources qui peuvent leur permettre de s'approprier des savoirs nouveaux qu'ils vont réinvestir dans les projets. Moi, j'ai beaucoup travaillé autour de cette trilogie projet, obstacle, ressources. Les jeunes ont des projets, ils découvrent des obstacles dans la réalisation de leurs projets. À partir de ces obstacles, le rôle du formateur, de l'enseignant, est de les aiguiller vers des ressources qui leur permettent d'apprendre et de réinvestir dans le projet initial ce qu'ils ont appris pour que progressivement l'apprentissage ne soit plus perçu par eux comme une obligation qui leur est imposée de l'extérieur pour des raisons institutionnelles, mais que cet apprentissage prenne sens à l'intérieur d'un projet qu'ils ont eux-mêmes investi. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé en matière didactique d'une manière forte sur la notion d'objectif-obstacle. C'est-à-dire que nous essayons d'identifier les objectifs importants que doivent atteindre ces jeunes en termes de compétences et nous essayons de construire des projets où les jeunes vont rencontrer ces obstacles pour pouvoir s'investir dans le projet, rencontrer l'obstacle et à ce moment-là se mettre librement et délibérément à apprendre pour surmonter les obstacles qu'ils ont rencontrés et les réinvestir dans le projet. Cette dynamique entre projet, obstacle, ressources est une dynamique qui enlève le caractère fossile des savoirs et qui permet d'intégrer les savoirs à l'intérieur de quelque chose qui construit le développement de la personne. Alors, une nouvelle remarque, surtout par rapport à ce que vous appelez l'humanité, je suis comme vous très très sensible à ces questions, à ces pulsions d'agressivité, à ces interrogations fondamentales que se posent les jeunes. J'ai aussi moi-même utilisé la méthode clinique dont vous parlez, d'entretien avec des enfants en grande rupture, et je suis très frappé de voir que ces enfants sont terriblement préoccupés par la question de la violence, de la mort, de l'amour, de la sexualité, par ces questions anthropologiques auxquelles les adultes ne répondent plus dans la société française. La tradition religieuse ou la tradition politique faisait que, à travers les contes, à travers les légendes, à travers toute une série de littératures populaires, ces questions qui sont des questions fondamentales de tout homme étaient symbolisées quelque part. Aujourd'hui, ces questions ont été laissées en pâture au cinéma marchand, aux jeux vidéo et à toute une sous-culture qui ne permet pas à ces jeunes de penser ces questions d'une manière humaine, de penser par exemple le rapport fondamental entre l'humain et l'inhumain. Quand dans la tradition française, on évoquait dans les légendes l'histoire du loup-garou, de l'homme qui se transforme en loup, on permettait à l'enfant de penser cette contradiction qu'il y a dans tout homme des pulsions agressives qu'il doit comprendre, intégrer, symboliser. Et nous, j'interprète ce phénomène que vous avez particulièrement bien décrit comme un déficit de la fonction symbolique. C'est-à-dire que faute de pouvoir symboliser les pulsions qui sont en eux, faute de pouvoir manipuler psychiquement ces pulsions en leur donnant des visages et des noms, eh bien, les enfants sont manipulés par ces pulsions. Ils ne peuvent pas les penser, ils ne peuvent pas les figurer, ils n'ont pas les figures qui leur permettraient de les manipuler, et donc ce sont eux qui sont manipulés, et ces pulsions prennent en eux toute la place parce qu'ils ne les mettent pas à distance. D'où un travail qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est qu'avec ces enfants en grande difficulté et en rupture, l'approche par la tradition culturelle doit être privilégiée. Parce que la tradition culturelle est ce qui permet justement de retrouver ces pulsions fondamentales, de leur donner des noms, de leur donner, de les symboliser. Or, nous avons fait exactement le contraire en France, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une approche par la tradition culturelle, nous avons eu une approche exclusivement fonctionnelle. C'est-à-dire que nous avons dit à ces jeunes, puisque vous êtes en difficulté, on va vous apprendre à lire le mode d'emploi des appareils électroménagers. On va vous apprendre à décrypter les textes des publicités. On va vous apprendre des choses qui sont dans l'actualité immédiate, lire des petites annonces pour trouver un logement. C'est-à-dire que par rapport à ces jeunes, on a enlevé le poids culturel qui était susceptible de leur permettre de symboliser leurs pulsions intérieures pour leur donner une culture strictement fonctionnelle et utilitaire, c'est-à-dire en pensant qu'ils allaient pouvoir, grâce à cela, mieux se débrouiller dans la vie, et en laissant en jachère, en laissant à l'abandon, les préoccupations anthropologiques que ces élèves peuvent avoir, que ces enfants peuvent avoir. Dans la tradition française, c'est la raison pour laquelle je milite beaucoup pour qu'avec ces enfants, plus ils sont en difficulté, plus on est d'exigences culturelles. Et que on ne les rabatte pas systématiquement sur les apprentissages fonctionnels et techniques. Or, en France, c'est l'inverse qu'on fait. Ces enfants que vous décrivez, on les envoie très tôt vers la technique, vers le fonctionnel, vers l'utilitaire. On les prive du culturel. On les prive de ce qui leur permettrait de manipuler psychiquement ce qui les angoisse, ce qui les traumatise, de donner une forme mentale aux grandes peurs qui les envahissent et qui font que s'ils ne les comprennent pas, ils vont les transformer en violence. Par exemple, je travaillais hier encore avec des enfants en grande difficulté en rupture scolaire, ce que nous appelons des décrocheurs, parce qu'ils ont abandonné l'école, ils ne veulent plus aller à l'école. Eh bien, nous parlions dans les histoires et les légendes françaises du mythe de l'ogre, celui qui mange les autres. Eh bien, sans leur faire de la psychologie, je leur ai raconté des histoires où il était question d'ogre, et ils comprennent très bien qu'il est question d'eux, que l'ogre c'est l'image de celui qui aime tellement l'autre qu'il veut le manger, et que tout être humain est toujours tenté de tellement aimer les autres qu'il les mange et qu'entre l'amour et l'anthropophagie, il y a des liens fondamentaux et structurels et qu'il faut pouvoir aimer quelqu'un sans le posséder. Eh bien, cette question, comment aimer quelqu'un sans le posséder, sans le manger, sans le vampiriser, est une question qu'il se pose. Et il me disait, c'est bien que vous nous ayez parlé de l'ogre, parce que justement, ces questions-là, elles nous intéressent et personne ne nous en parle, sauf dans des films américains, sauf dans les mangas. Et ils m'ont cité justement les mangas japonais, comme étant des formes d'expression dans lesquelles ils retrouvaient parfois des préoccupations qui sont essentielles pour eux, mais qui sont dénigrées par l'école, qui sont écartées par l'école, dont à l'école on ne s'occupe pas parce qu'on leur dit « il faut faire des mathématiques, il faut faire de l'histoire, on ne s'occupe pas de vos problèmes personnels ». Alors, pour terminer et ne pas être trop long, ma conviction par rapport à ce que vous dites, cette humanité à laquelle il faut former l'élève, c'est pour moi la culture. La culture en tant qu'elle relie l'intime et l'universel. Un objet culturel est un objet qui parle à chacun de ce qu'il a de plus intime, de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses problèmes, mais au lieu d'en parler sous l'angle psychologique, il en parle en montrant que cette intimité, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer dans des œuvres d'art, qu'elle peut s'exprimer dans des œuvres littéraires, qu'elle peut s'exprimer au cinéma, et que cette universalité, dès lors qu'on l'a comprise, on est relié aux autres, et dès lors qu'on a intégré l'idée que nos peurs archaïques, que nos tensions profondes, elles peuvent s'exprimer et être sublimées à travers des formes d'expression artistique, par exemple, eh bien, à ce moment-là, je crois que l'enfant peut accéder à autre chose qu'à la violence. C'est la raison pour laquelle je milite beaucoup, 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 depuis ces dernières années, pour que tous ces enfants que vous décrivez soient des publics prioritaires pour tout ce qui est éducation artistique. Artistique. C'est-à-dire que l'art ne soit pas réservé aux bons élèves, à ceux qui ont déjà fait les mathématiques, le français, etc., et à qui on donnerait l'art en plus, mais que l'art soit le point de départ pédagogique utilisé en priorité avec ces publics difficiles. Je crois que tout ce que vous avez dit sur les angoisses sexuelles, tout ce que vous avez dit sur le choix et le fait d'avoir une place dans la société, l'éducation artistique nous apporte non pas des réponses toutes faites, mais des capacités de les penser. Comme je le dis souvent, quand on me parle du chahut dans les classes ou quand on me parle des comportements que vous avez décrits tout à l'heure, quand un enfant prend toute la place dans une classe, quand il chahute, quand il parle tout le temps, quand il est intenable, quand on prend toute la place, c'est qu'on n'a pas de place. C'est qu'on n'a pas de place. L'enfant qui veut prendre toute la place, c'est qu'il n'a pas de place pour lui. Et il faut lui donner le droit à une place. Et cela peut se faire par l'implication dans une démarche de création. Donc, depuis de nombreuses années, je fais partie de ceux qui militent pour que ces enfants en grande difficulté que vous avez décrits soient des publics prioritaires pour des démarches de création artistique, création théâtrale, création de la danse, création dans les opéras, création dans les arts visuels et les arts plastiques. Et la plupart du temps d'ailleurs, je propose de mélanger ces publics avec des publics handicapés, avec des publics en difficulté mentale, avec des publics que nous appelons métissés, c'est-à-dire des enfants ordinaires, des enfants extraordinaires, qu'on appelle aussi handicapés, des enfants qui peuvent, par l'expression artistique, découvrir que chacun peut dire quelque chose, peut parler de son intimité sans être violé par quelqu'un qui viendrait en quelque sorte pour gratter sur ses blessures personnelles. L'expression artistique est pour moi un vecteur fondamental pour ces enfants-là, parce qu'elle leur permet de dire leur histoire sans pour autant se sentir mis à nu, sans se sentir violé, agressé par quelqu'un, et ils la disent en la symbolisant. Et dès lors qu'ils rentrent dans le symbolique, ils rentrent dans une expression qui leur permet de sortir de la violence brutale, ils rentrent dans une expression qui leur permet de penser leurs problèmes et de ne plus être envahis par leurs problèmes. Parce que c'est ça, penser leurs problèmes et ne pas être envahis par leurs problèmes. Alors la France ne prend pas ce chemin aujourd'hui. Elle prend exactement le chemin politique inverse, puisqu'elle a décidé d'exclure les disciplines artistiques de ce que l'on appelle le socle commun de connaissances. Pour moi, c'est extrêmement grave, parce que cela veut dire que l'on va faire de l'obstination pédagogique sur les savoirs scolaires fondamentaux à des élèves pour lesquels ça ne fera qu'accroître le phénomène de rupture. Je crois au contraire qu'il faut intégrer la dimension artistique, la dimension d'expression personnelle, ce que vous appelez la dimension d'humanité, dans la formation de tous et des plus difficiles et des plus déshérités en priorité. Voilà, et je crois que là, nous avons un moyen, à travers toutes les cultures, quelles que soient nos cultures, de donner à ces enfants une façon de retrouver la fierté d'eux-mêmes et de s'inscrire dans cette humanité que vous appelez de vos voeux et moi aussi.